Bonjour.
Bon, je reçois de vous depuis quelques mois, peut-être déjà un an, des messages sur quelque chose qui s'appelle Ektaparishat. Donc, oui. Ce n'est pas une nouvelle sorte de régime ou de fitness, mais c'est quoi?
C'est un mouvement des paysans sans terre en Inde. Ektaparishat veut dire le forum de l'unité. Donc, il faut s'unir pour défendre ses droits.
Aha.
Et le mouvement Ektaparishat, qui existe depuis 1991, veut permettre aux petits paysans, souvent des paysans sans terre, qui sont des ouvriers agricoles, qui travaillent pour des gros propriétaires, ou des gens qui ont été chassés de leurs terres à cause des développements industriels, c'est pour leur permettre d'avoir leurs droits, droit à la terre, droit à l'eau et droit à la forêt, parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui sont des adivasis, comme on les appelle, des tribaux, des aborigènes, qui vivent dans des forêts ou dans ce qui était avant encore des forêts, et qui sont chassés soit pour des projets industriels, soit pour faire des grands barrages ou des grandes entreprises minières qui démolissent toute la forêt et qui chassent les gens qui habitent dans leur village. Donc en 1991, le leader de Ektaparishat, Rajagopal, qui travaille selon les méthodes non violentes de Gandhi, a essayé de regrouper tous ces gens, qui représente à peu près 40% de la population en Inde, ce qui est énorme, puisque l'Inde, ça fait 1,2 milliard d'habitants, donc 40%, ça fait 480 millions de gens qui sont concernés, soit qu'ils sont des adivasis, donc des tribaux qui habitent dans les forêts, soit qu'ils sont des dalits, les intouchables, comme on les appelle parfois ici, et qui sont des oubliés du miracle économique indien, qui n'ont donc pas droit à vivre dignement.
Et ce monsieur Rajagopal, c'est qui? D'où est-ce qu'il vient?
Oh, c'est un Keralien, c'est un Indien qui est né dans le sud de l'Inde et qui a d'abord appris la danse classique, Kathakali, une danse classique de l'Inde du sud. Puis il a eu un diplôme en agriculture dans un institut de formation qui travaillait sur les méthodes de Gandhi. Et il a, en 1969, il a participé comme guide dans le train de l'exposition Gandhi. Il y avait un train qui circulait à travers tout le pays avec une exposition sur Gandhi. Donc, ça arrêtait de gare en gare pendant plusieurs jours. Et c'était en fait pour essayer de faire percevoir aux jeunes du pays ce que Gandhi avait fait, comment il avait travaillé, puisque c'était le libérateur, c'est lui qui a vraiment enclenché la libération de l'Inde et l'indépendance. Et donc, on voulait faire connaître aux jeunes ce qu'il avait été pour qu'eux, à leur tour, puissent le transmettre aux générations futures. Et pendant cette exposition, Rajagopal a été plusieurs fois interpellé en disant « Oui, mais c'est très beau de parler de non-violence, mais est-ce que vous avez déjà pratiqué, vous, la non-violence ?» Et donc, il s'est senti interpellé. Et là, après, quand une année de ce train était terminée, il a travaillé dans la vallée du Chambal, au Madhya Pradesh, dans le centre de l'Inde, où il y avait une région assez importante, où il y avait beaucoup de bandits, qui étaient généralement des gens qui avaient été chassés de leur terre, justement, et qui voulaient, par des gros propriétaires ou par des entreprises internationales, et ces gens voulaient se venger par les armes. Et donc, pendant une très longue période, toute cette région de Chambal a vécu de grandes difficultés parce que partout, la police, l'armée essayaient de les chasser. Les gens n'osaient plus aller travailler dans le champ parce qu'on risquait de se faire kidnapper ou de se faire tuer, etc. Et après plusieurs années de discussions, Rajagopal est allé dans la région avec trois autres habits. Et après plusieurs années de discussion avec eux, il leur a dit « Mais est-ce que ça vous plaît, ce genre de vie où vous êtes chassés tout le temps, etc. ?» Et il est parvenu à les convaincre de remettre leurs armes.
Est-ce que c'est la région où était aussi Pulan Devi?
Oui, c'est ça. C'est dans la région de Pulan Devi, c'est ça. C'est la vallée de Chambal. C'est les Dacoits, comme on les appelait, c'était des brigands. Et comme dit Rajagopal, c'était pas des brigands très méchants, mais ils avaient quand même tué des gens, etc. Tout ça pour essayer de faire valoir leurs droits. Et Rajagopal et ses amis ont essayé de leur faire comprendre que c'était pas avec la violence, qui appelle elle-même plus de violence pour les réprimer, c'était pas avec la violence qu'on pouvait gagner ses droits. Donc c'était sa première expérience. Et après ça, Rajagopal s'est rendu compte, d'ailleurs, à ce moment-là, qu'à côté de cette violence physique, que les Dacoïtes manifestaient, il y avait aussi toute une violence institutionnelle. Quand le gouvernement ne permet pas aux gens de vivre dignement, quand les gens n'ont pas la possibilité d'acheter la nourriture, de vivre dignement, c'est une sorte de violence institutionnelle. Et donc, c'est contre cette violence institutionnelle aussi qu'il a voulu lutter depuis lors en accompagnant tous ces paysans sans terre.
Donc, il s'est organisé encore hors du désarmement des bandits.
Oui.
Et qu'est-ce qu'il a fait donc?
Ça a un des moyens importants de formation pour Radio Gopal, c'est en fait de mobiliser les jeunes dans les villages. Il s'amène avec une petite équipe, c'est ce qu'il appelle les camps de jeunes, il s'amène avec une petite équipe dans un village. Alors dans un village, dès qu'il y a des gens étrangers au village qui s'amènent, tout le monde vient un peu voir ce qu'il en est. Et pendant 3, 4, 5 jours, il organise un camp où les jeunes viennent facilement parce que ou bien ils n'ont pas de boulot, ou bien ils sont intéressés à voir ce qui va se passer. Et la première chose qu'il leur apprend à faire, c'est à regagner confiance en eux-mêmes. Parce que ces gens-là, souvent, Dalit et autres, sont souvent méprisés par la société. Et donc, ils n'ont plus du tout d'estime d'eux-mêmes. Et le premier but, c'est de leur dire, voilà, vous avez des capacités. Parce que quand on leur dit, qu'est-ce que tu sais faire? Ben, moi, je ne sais rien faire, je suis un simple villageois. Oui, mais tu sais traire les vaches, tu sais réparer le tracteur ou le vélo, etc. Et donc, on essaye d'abord de leur donner confiance en eux-mêmes. Et ensuite, on leur donne un minimum d'analyse sociopolitique, je dirais. Pourquoi est-ce que ça va pas bien? Qu'est-ce qui va pas bien dans le village? Quelle est la différence entre les riches et les pauvres? Quelles sont les lois? Les lois disent ceci et qu'est-ce qui est appliqué sur le terrain? Enfin, bon, on essaye de leur faire comprendre. Et qu'ils ne doivent surtout pas tout remettre sur la faute du gouvernement, parce que facilement on trouve, oui, mais telle chose ne va pas au gouvernement, il y a de la corruption, il y a ceci, il y a cela. Et il essaie de souligner le fait qu'eux-mêmes ne doivent pas toujours tout attendre du gouvernement, mais qu'ils doivent d'abord s'organiser, voir d'abord au sein du village, est-ce qu'il n'y a pas des disputes, les gens qui se disputent entre eux, ou les différences qui existent entre l'un et l'autre. Et donc c'est toute une formation assez courte, mais qui met l'accent sur le fait d'organiser le village pour être uni, pour défendre ses droits.
Et la responsabilité de chacun.
Et la responsabilité de chacun. Et le troisième volet de ces camps de jeunes, c'est faire un peu de travail commun pour le village, que ce soit nettoyer le village, qui est souvent laissé pas propre parce que les gens n'ont pas de responsabilité, ou c'est refaire une route qui amène, un chemin qui ramène jusqu'à la grande route, etc. Donc pour que le village entier se sente concerné. Et donc ces camps de jeunes, il en a fait des dizaines, si pas des centaines, à travers toute l'Inde. Et c'est là qu'il y a une série d'animateurs ruraux, des animateurs sans pieds, comment est-ce qu'on dit, non, oui, des animateurs sans pieds, qui l'a formé à travers toute l'Inde, dont certains sont devenus des militants de Ekta Parishat, d'autres ont continué à travailler de leur côté dans leur village éventuellement. Voilà.
Et donc, en 2007, il y a quelque chose de grand qui s'est organisé?
En 2007, il avait déjà organisé une marche de 25 000 paysans, paysans sans terre, donc de Gwalior à Delhi, c'est 350 km au sud de Delhi, Gwalior, Agra et Delhi, donc sur la route, c'est 350 km, et il y avait 25 000 paysans qui étaient là, une marche à laquelle j'ai eu l'occasion de participer, ça prenait 30 jours, les gens marchaient bien sûr sur la route, sur la grande route, c'est la grande route qui va de Bombay à Delhi, avec deux fois deux bandes avec un terre-plein au milieu. Et il y a un des côtés qui était réservé pour les marcheurs, qui dormaient, qui mangeaient sur la route, et qui ont été jusqu'à Delhi pour revendiquer leurs droits auprès des autorités.
Je n'arrive pas à m'imaginer une foule tellement grande.
C'était très impressionnant, parce qu'en Inde, on a relativement facilement 25 000, 30 000 ou même 100 000 personnes pour un meeting politique à un moment donné, mais ici 25 000 personnes pendant 30 jours qui continuent en plein soleil, qui n'avaient qu'un seul repas par jour, c'était assez impressionnant. Les quelques étrangers qui étaient là étaient absolument étonnés parce que ça nécessite aussi toute une logistique pour pouvoir nourrir ces gens.
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Jours, ils avaient un seul repas par jour.
Et d'où venait ce repas?
Comment?
D'où venait ce repas?
C'était organisé, les 25 000 étaient divisés en groupes de 1000. Avec chaque groupe de 1000, il y avait des grands numéros, comme ça on voyait le 1, le 2, le 3, etc. Chaque groupe avait deux camions, un avec l'intendance et de quoi cuisiner avec des bonbonnes de gaz. Il y avait aussi deux citernes d'eau, parce que l'eau qui servait à la fois pour boire, mais pour se laver aussi sur le bord de la route le soir. Et il y avait aussi, bien sûr, un rickshaw cycle, donc un vélo avec un haut-parleur, parce qu'il faut toujours de la musique, de la slogan, etc., pour encourager les gens. L'aspect artistique est très important quand on essaye de communiquer avec les gens des villages, parce que il y en a certains qui sont illettrés, etc. Donc l'aspect musique, slogan, etc. est important. Et donc chaque groupe avait sa cuisine ambulante. Le matin, avant que les marcheurs ne commencent à marcher, les deux véhicules allaient déjà à l'étape suivante, et c'est à la fin de la marche du jour qu'ils recevaient le repas quotidien.
Ah, et pour dormir?
Ils dormaient sur la route. On étale un petit drap sur la route et on dort sur la route. Les Indiens sont habitués à dormir un peu partout, mais voilà.
Et vous?
Les étrangers, on souhaitait qu'ils ne restent pas dormir sur la route. Et donc là, il y avait des jeeps qui nous amenaient à un hostel, juste soit avant, soit après. Donc il y avait beaucoup de transport pour les étrangers, mais ils avaient souhaité que les étrangers ne soient pas sur la route.
Et pourquoi pas? Est-ce qu'ils avaient peur de violence ou...
Parce qu'ils avaient peur que les gens soient malades. Et effectivement, il y avait des Français qui ont dit « Nous, on veut dormir avec eux pour partager leurs conditions. » Et le lendemain, ils étaient tous malades, évidemment.
Donc c'était une petite équipe d'observateurs étrangers.
Oui, on était au total, disons, on était quand même 200 étrangers, mais qui n'ont pas tous fait la totalité de la marche. Mais au total de ceux qui sont venus, il y en avait à peu près 200. Alors, à ce moment-là, suite à cette marche, le gouvernement a satisfait à certaines exigences. Il y a certaines lois qui ont été modifiées ou auxquelles on a fait des ajouts à la loi. Il y a des milliers de gens qui ont reçu un titre de propriété, parce que le titre de propriété, c'est la manière qu'ils ne soient pas expulsés de leur terre. Il y a des milliers de litiges fonciers quand il y avait des disputes de terrains qui n'étaient pas bien démarqués, etc., qui ont été résolus. Mais au niveau de l'Inde, c'était tout à fait insuffisant, parce que je disais 480 millions de gens concernés par cette marche. Donc c'était tout à fait insuffisant. Et Rajagopal avait promis, si vous ne remplissez pas convenablement et tout totalement vos promesses, nous reviendrons dans 5 ans, mais nous serons plus nombreux. Et parce qu'en Inde, il y a beaucoup de plans de développement quinquennaux, etc., par 5 ans. Donc il avait dit, dans 5 ans, nous reviendrons. Et donc, en octobre, maintenant, 2012, il était prévu une marche. Et ils espéraient à ce moment-là avoir 100 000 personnes. Et donc, ça nous ramène tout récemment. Avant cela, en fait, depuis octobre 2011 jusqu'à septembre 2012 maintenant, pendant 11 mois, Rajagopal, avec une petite équipe d'une vingtaine d'animateurs et de militants, a fait un tour complet de l'Inde, en jeep, pas à pied cette fois-ci. Ils ont fait 80 000 km, je crois, depuis le sud extrême de l'Inde, à Kanyakumari, à travers la plupart des États, je crois, à travers 350 districts. Ils ont essayé de rencontrer pas seulement des gens qui étaient militants d'Ekta Parishat, mais d'autres personnes qui luttaient à travers d'autres associations, etc., pour leurs droits. Et donc, il a pu observer, aussi bien dans des villes que dans les campagnes, le problème des pauvres et des laissés pour compte. Et il a proposé à tous ces gens-là de rejoindre la marche au mois d'octobre, donc cette année-ci. Et il a pu être témoin, il a pu documenter la situation des gens de façon claire. Et la traduire auprès du gouvernement, parce que la technique d'Ekta Parishat, c'est toujours d'essayer de maintenir le dialogue avec les autorités, que ce soit le gouvernement central de Delhi ou bien le gouvernement de chaque État.
Ah oui, et donc, c'est nécessaire, je crois.
Déjà avant ces marches, ils essayaient, après une marche où vous avez documenté comme ça une série de problèmes qui se passaient dans les villages, ils essayaient de former une commission paritaire, donc moitié gouvernement, moitié des gens d'Ekta Parishat, pour essayer de résoudre au moins certains des problèmes qu'ils avaient pu constater lors de leur marche à travers les villages. Et donc, cette année-ci, le 2 octobre, ils ont entamé une marche. Ils étaient 50 000 à peu près. Ils espéraient éventuellement être 100 000 en arrivant à Delhi.
Et ils sont partis d'où?
ils sont partis de Gwalior, le même endroit qu'en 2007, donc à 350 km de Delhi, c'était le même trajet. Avant ça, il y avait bien sûr toute une série de préparations. Il fallait aller voir la route, demander à des gens qui habitaient sur la route de pouvoir disposer de l'eau, par exemple. Il faut des puits, etc. L'eau, ça se paye. Il y a certains gros propriétaires le long de la marche qui ont offert parfois de la nourriture, du riz, des légumes, etc., ou des céréales. Il y a beaucoup d'écoles aussi qui étaient le long du chemin pour accompagner et encourager les marcheurs. Donc tout ça, il y a une mobilisation à créer tout le long de la route qu'ils ont fait.
Et puis, donc le 2 septembre, ils sont partis, mais non, le 2 octobre, mais d'abord, pendant cette année, j'ai l'impression que, pas seulement en Inde, mais aussi hors de l'Inde, on a fait beaucoup de sensibilisation.
Oui, le souhait d'extirper le problème de l'accaparement des terres, parce que c'est comme ça qu'on dit un peu partout dans le monde, il y a des
terres. Oui, land grabbing.
Oui. Qui sont accaparées. L'Inde n'est loin d'être le seul cas. À Madagascar, par exemple, il y a des milliers d'hectares qui ont été accaparés, qui ont été achetés par la Corée du Sud. On se demande pourquoi, mais en fait, c'est pour pouvoir nous produire de la nourriture qu'ils ne peuvent pas produire dans leur pays. Enfin, et l'Inde elle-même achète des terres en Afrique. Et donc, ce problème d'accaparement des terres étant partout le même dans le monde, c'est la même chose pour les mouvements des sans-terres au Brésil, etc. Le souhait d'Ectaparichat est certainement d'internationaliser ce mouvement. Et il a fait, par exemple, au mois de mars 2011, ils ont fait une rencontre à Delhi où il y avait des délégués du Brésil, de la Bolivie, du Kenya, du Sénégal, etc., et de différents pays d'Asie aussi, pour essayer de voir comment faire le lien avec le problème de la terre dans leur propre pays. Et ici en Europe, il y a eu une mobilisation qui est à la fois pour soutenir financièrement l'action là-bas, mais aussi parce qu'il y a chez nous aussi, en Europe, un problème d'accaparement des terres. Que ce soit en Belgique ou en France, il y a un jeune fermier, enfin un jeune qui veut commencer à être fermier ou à cultiver des légumes. Il a beaucoup de difficultés à trouver de la terre et souvent un prix prohibitif parce qu'il y a la spéculation, etc. Donc le problème de la terre, même chez nous, ça existe aussi, quoi.
Oui, il y a la grande agro-industrie qui...
Oui, il y a l'agro-industrie, or des gens comme Olivier Duscutter, qui est le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, ne fait que répéter, qui a rencontré Rajagopal aussi ici en Belgique, il ne fait que répéter que la petite agriculture paysanne et proche est plus productive que l'agro-business où il y a peut-être très peu de gens qui sont employés parce que ce sont des énormes surfaces avec des tracteurs automatisés, etc. Mais rapidement, avec tous les intrants, les engrais qu'on doit mettre, les pesticides, etc., la production chute très vite. Et de ce fait-là, il dit la petite agriculture, c'est la seule qui pourra produire la nourriture suffisante pour le nombre de populations qu'on sera demain sur Terre, quoi.
Donc c'est beau qu'il a rencontré cet homme.
Oui.
Oui. Et ça a donné quelque chose? Il y a maintenant un réseau de solidarité internationale?
Il y a un réseau qui est relativement souple parce qu'on n'a pas une grande organisation, mais il y a ici en Europe, par exemple, il y a une association, il y a plusieurs groupes en Suisse, il y a plusieurs associations en France, il y a plusieurs groupes ici en Belgique qui ne sont pas sous forme d'association, mais disons plusieurs personnes qui ont rencontré Rajagopal lorsqu'il est venu donner des conférences ici. On se sont mobilisés, etc. En Belgique, il y a eu quelques marches, mais relativement symboliques, qui souvent étaient en lien d'ailleurs avec un agriculteur bio ou des gens qui travaillaient de façon alternative la terre ici en Belgique. Il y a aussi un groupe en Allemagne, en Allemagne et en Angleterre. Et donc, ce sont des gens qui se mobilisent chacun dans la mesure du possible. Et en Belgique, en tous les cas, on souhaitait beaucoup faire le lien avec des pratiques différentes d'agriculture et de se nourrir, puisque la terre, c'est la base pour pouvoir se nourrir. Et si on exploite la terre avec des OGM, avec des pesticides, ben, on n'aura plus de nourriture convenable pour le futur, pour nos enfants.
Oui, c'est une problématique assez compliquée.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé à partir du 2 octobre. Est-ce qu'ils sont déjà à Delhi?
Avant le début de la marche, avant le 2 octobre, il y a des discussions qui ont été intensifiées avec le gouvernement de l'Inde, parce que le gouvernement de l'Inde voyait que la marche allait avoir lieu avec les 100 000 personnes, et donc ils n'aiment pas beaucoup ça. Et donc déjà 15 jours avant, il y a eu des rencontres intensives avec des ministres, plusieurs ministres et le premier ministre également de l'Inde. Et 8 jours avant le début, je crois, il y avait des discussions, plus ou moins des conventions, tiens, on va faire ceci, on va faire cela. Il y avait 3 ministres qui étaient annoncés pour le départ de la marche le 2 octobre. Pour finir, il n'y en a qu'un seul qui était présent. C'est toujours le problème en Inde. On fait des promesses et puis ça ne vient pas. La suite ne vient pas.
Alors, c'est un peu partout.
Ce que le ministre a annoncé ce jour-là était nettement en dessous de ce qu'ils avaient discuté 8 jours avant. Donc Rajagopal et les principaux responsables ont demandé aux marcheurs, voilà ce qu'on nous propose. Est-ce que vous êtes satisfaits ou bien est-ce qu'on commence la marche? Et tout le monde a levé son drapeau en signe de vouloir marcher. Et donc, ils ont commencé à marcher pendant 8 jours, en fait. Pendant ce temps-là, il y avait toujours des discussions et intenses avec le gouvernement. Et le 11 octobre, le ministre du Développement Rural est venu à Agra, qui est à peu près un tiers du chemin de la marche prévue. Et devant l'ensemble de tous les marcheurs, des 50 000 marcheurs qui étaient là, il a signé un accord avec le groupe d'Ekta Parishat avec Rajagopal, un accord en 10 points qui donne une série de promesses qui seront faites, parce que le problème de la terre en Inde, c'est que tout ce qui est terre forestière dépend du gouvernement central, mais tout ce qui est terre agricole ou pour loger, etc., toutes les autres terres dépendent de chaque gouvernement individuel.
Ah oui, des 22, 23...
27 même états et territoires.
De deelstaten, zoals het dan in het Nederlands heet, ja.
Et donc, il y a plusieurs points de cet accord qui disent le ministre du Développement Rural encouragera ou suggérera au ministre des États de faire telle et telle démarche, de distribuer des terres, de régulariser des terres, etc. Donc, vu de notre point de vue occidental, certains me disent, mais est-ce qu'ils sont pas naïfs, parce qu'il y a une partie de ces points qui sont des promesses.
Ah oui, voilà.
Et donc, peut-être qu'elles ne seront pas suivies, mais disons que d'abord, je connais suffisamment Rajagopal et les équipes d'Ekta Parishat pour penser qu'ils ne se sont pas laissés faire à ce point-là et que c'était sans doute la meilleure chose qu'ils pouvaient obtenir à ce moment-là, parce qu'au début de la marche, ils avaient annoncé que ils n'avaient pas assez de nourriture pour tous les gens jusqu'à la fin de la marche, donc c'est peut-être aussi une des raisons qui a poussé à.
Oui.
Et donc c'était le meilleur compromis. Mais aussi, ça a été annoncé de façon très solennelle devant tout le monde. Il y avait des leaders d'autres mouvements sociaux qui avaient rejoint la marche, comme Vandana Shiva, etc., qui avaient rejoint, et donc c'était très important. Chacun des marcheurs est reparti dans son village avec le texte de l'accord, donc c'est aussi très symbolique. Et donc, je crois que le gouvernement ne pourra pas si facilement que ça échapper à ses responsabilités.
Mais c'est donc à suivre.
Oui, à suivre. Mais il est évident que pour Ekta Parishat, ce n'était pas la marche qui était le but en soi, c'était qu'un moyen de pression.
Bien sûr.
Et donc, ils étaient conscients qu'il y aura encore beaucoup de boulot par après et que ce n'est pas la fin du boulot pour Ekta Parishat, quoi.
Donc, ça finit avec des promesses de suggestion, oui.
Des promesses quand même, il y en a certaines qui dépendent du gouvernement central, donc des promesses de modifier telle et telle loi. Il y a aussi, vis-à-vis des gouvernements des États, il y a beaucoup de programmes en Inde où en fait le gouvernement central suggère des choses au gouvernement des États, mais tout en leur disant, si vous réalisez, nous allons le financer.
Ah.
Donc, c'est plus que simplement reporter la responsabilité aux autres, c'est aussi participer à partir du gouvernement central, quoi.
Ok.
Voilà.
Voilà. Belle histoire. Merci pour votre temps.
Merci de faire écho à cela.
Et surtout, tenez-vous au courant.
Oui, certainement.